Écho d'économie, Jocelyne Moussaou.
Bienvenue dans ces quarts d'heure dédiés à l'économie congolaise. Sylvain Matundu est à la mise en onde. Berry Franklin Luchaka est prêt pour les nouvelles du pays.
Le maire de la ville de Mbandaka suspend la perception de certaines taxes dites illégales. Nous en parlons dans deux minutes avec Dominique Wolombi Mungampangi. Et puis les agents des ministères générateurs des recettes ont observé aujourd'hui un sit-in devant le ministère des Finances. Ils réclament le paiement des arriérés de bonus des trois trimestres pour l'année 2009. C'est un dossier à suivre dans la seconde partie de cette émission.
Également dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Jacqueline Bissimois, présidente nationale de l'Association des femmes chefs d'entreprise de la RDC. D'abord les nouvelles du pays. Tanke Fungurume Mining a produit 70 000 tonnes de cathodes de cuivre et 2580 de cobalt en 2009.
Ces chiffres ont été rendus publics dans un communiqué de presse. Tanke Fungurume Mining dit également avoir versé au compte du trésor public de la RDC un montant de $250 000 depuis 2006. Les prévisions de la production de TFM par an sont de 115 000 tonnes de cuivre et 8 000 tonnes de cobalt. 2009 est la première année de production de cathode. TFM estime être sur la bonne voie. Voilà pourquoi elle poursuit ses programmes d'exploration en vue d'identifier d'autres réserves des minerais prouvés additionnels à celles existantes et qui sont facilement exploitables. Notez aussi que TFM est le plus grand producteur de cuivre et de cobalt en RDC. Ils viennent de lancer une étude de faisabilité pour l'extension du projet, mais l'incertitude continue sur la révision de son contrat avec le gouvernement congolais.
Préciser, Berry, que c'est 250 millions de dollars américains versés au compte du Trésor public par Tanke Fungurume Mining. Après la promulgation de la loi sur l'adhésion de la RDC à l'OADA, l'heure est à la sensibilisation.
C'est à ce titre que le ministère de la Justice et le secrétariat permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA en sigle, ont organisé le week-end dernier un échange avec les différents ordres professionnels de la société civile, les opérateurs économiques et judiciaires de la RDC. Cette rencontre a permis aux experts de la RDC de mieux se familiariser au texte de l'OADA, mais aussi de partager l'expérience d'autres pays membres. Rappelons qu'après la promulgation de la loi d'adhésion de la RDC à l'OADA par le président de la République, d'autres étapes restent à franchir. Il s'agit notamment de la signature de l'ordonnance portant adhésion de la RDC à l'OADA et le dépôt de l'instrument d'approbation confirmant l'adhésion de la RDC par courrier destiné à l'État du Sénégal, pays dépositaire du traité de l'OADA. Selon le ministre de la Justice, ce n'est que 60 jours après cette dernière formalité que ce droit entrera réellement en vigueur en RDC.
L'AFEC Province Orientale a évalué ses activités pour l'année 2009.
C'était au cours de la cérémonie d'échange des vœux organisée le week-end dernier. Le président de l'AFEC Province Orientale a indiqué qu'au cours de l'année 2009, les opérateurs économiques de tous les secteurs ont travaillé dans un climat défavorable. Ils ont été l'objet de plusieurs tracasseries administratives, militaires, policières et fiscales en payant des taxes exagérées et même des taxes souvent illégales. Ils ont aussi été victimes d'intimidations, des convocations et amendes fantaisistes.
Les agents de la régie provinciale de recouvrement et des recettes du Bas-Congo identifient les contribuables insolvables.
Ils recensent et identifient les différents contribuables dont les taxes, impôts et redevances échappent encore à la caisse de cette régie provinciale, ont indiqué les responsables de cette régie provinciale. Cette opération, selon les organisateurs, vise à élargir l'assiette fiscale de cette régie provinciale. Et le directeur général de la REPER affirme que depuis sa création en 2007, la REPER compte à ce jour 10 350 assujettis.
La nouvelle économique au bout du fil.
La nouvelle au bout du fil nous conduit ce soir à Mbandaka où le maire de cette ville, Constant Bessaou, suspend la perception de certaines taxes dites illégales. En ligne, Dominique Wolombi Mungampangi. Dominique, bonsoir. Pourquoi cette décision?
Bonsoir.
Oui, pourquoi cette décision?
Cette déléance des paysans qui viennent des villages environnants, pour la plupart en pirogue, en radeau ou en vélo, et qui sont victimes de tracasseries de tout genre de la part des services de l'État aux portes d'entrée et de sortie de la ville. À ces endroits, fonctionnaires et agents de l'État, militaires et FARDC et agents des services de sécurité leur font payer des taxes. mais la plupart de ces taxes sont plutôt des taxes illégales.
Quelles sont ces taxes déclarées illégales par le maire de la ville de Mbandaka?
Il s'agit notamment des taxes que percevaient les policiers, les militaires FRDC, les agents de l'ANR, Agence Nationale de Renseignement, ainsi que d'autres services de l'État à l'entrée et à la sortie de la ville de Mbandaka. Pour le maire Constant Bessaou, ces services n'ont aucun droit de percevoir une quelconque taxe auprès de la population, même pas la ration alimentaire que font valoir les forces de l'ordre, entendez, policiers et militaires FRDC. Les recettes de ces taxes illégales, qui n'ont aucune dénomination, étaient consommées aussitôt après la perception, sans preuve de paiement, par les percepteurs. Et ces taxes, qui n'ont aucune dénomination, je vais dire, ne sont reprises dans la nomenclature des taxes reconnues au pays ou à la province. Les maires de Mbandaka ne tiraient, ou la mairie de Mbandaka ne tirait aucun profit de ces recettes réalisées, si ce n'est des menaces, des ruptures d'approvisionnement de la ville en produits vivriers par les paysans.
Et quelles sont les taxes qui restent maintenues?
Il s'agit notamment de la taxe d'embarquement perçue par la DGM, Direction Générale des Migrations, et de la taxe d'étalage des produits vivriers qu'emmènent les paysans qui reviennent plutôt à la mairie.
Et y a-t-il une garantie pour le respect de ce train de mesures prises par le service concerné?
Jocelyne, c'est une autre paire de manches. Des mesures de suspension des taxes imposées par la police et l'armée ainsi que par les services de sécurité ont déjà été prises par les passés, tant par l'autorité provinciale que par l'autorité municipale. Mais quelques temps après, on est revenu à la taxe du départ. Cependant, en annonçant ces prêts de mesures, le maire Constant Bessaou s'était fait accompagner des officiers de la police et de l'armée aux endroits où policiers et militaires rassemblent la population.
Merci.
À ce moment précis,
oui.
À ce moment précis, dis-je, avec l'érection des barrières par la police et les militaires FRDC, il est à craindre que ces tracasseries reviennent.
Merci Dominique Wolombi pour cette information. Bonne soirée chez vous.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
Berry, les réserves d'or et des devises de l'Afrique du Sud ont diminué pour le deuxième mois consécutif.
C'est en raison d'un renforcement du dollar qui a réduit la valeur des réserves détenues en euros et dans d'autres monnaies. Ces réserves ont diminué de 0,5% pour atteindre 39,5 milliards de dollars le mois dernier, selon les chiffres de la réserve banque. Les réserves nettes sont tombées à 38,6 milliards de dollars américains contre 39,39 milliards de dollars un mois auparavant. Le dollar s'est raffermi par rapport à 13 des 16 principales devises, gagnant 3,3% contre l'euro. Et dans la même période, le prix de l'or a chuté de 1,5%, ce qui a réduit la valeur des réserves.
Merci Berry Franklin Luchaka pour cette information à l'Unique en international. On te retrouve tout à l'heure pour le dossier dans la seconde partie de cette émission.
Écho d'économie, le dossier.
Les agents des ministères générateurs des recettes ont organisé aujourd'hui un sit-in devant le siège du ministère des Finances. Berry Franklin Luchaka, vous avez suivi ce mouvement de sit-in. Dites-nous d'abord, quels sont les ministères concernés?
Alors, selon les informations reçues sur place, il y a 33 ministères qui sont concernés par ce mouvement. Il faut dire d'abord que les services d'assiette sont ceux qui œuvrent dans la maximisation des recettes de l'État. Ce sont par exemple les agents et cadres du ministère des Mines, de l'Économie et Commerce, des postes, téléphones et télécommunications, de l'Environnement, ministère de l'Agriculture et j'en passe. Donc, ils étaient environ 400 devant le siège du ministère des Finances.
Et qu'est-ce qu'ils réclament?
Bon, ces agents réclament la paye de leur bonus des trois derniers trimestres 2009. Selon le vice-président de l'intersyndicale des services d'assiette de l'État, tout est parti du mouvement de grève entamé par les régies financières au début du mois de décembre dernier. Grève qui avait pour objectif d'apurer le paiement de ces bonus. Après que les régies aient eu gain de cause fin décembre dernier, il a fallu dans les 48 heures qui suivaient que les services d'assiette soient aussi servis. Malheureusement, le paiement n'est pas intervenu jusqu'à présent.
Jusqu'à présent, mais qu'est-ce qui bloque?
Bon, selon ces agents qui revendiquent, les choses bloquent au niveau du ministère des Finances, tout simplement, mais sous diverses formes. Certains affirment que le ministre avait déjà libéré l'enveloppe de bonus, mais ils ne comprennent pas comment la DGRAD ne les paye pas jusqu'à ce jour. Ce qui fait qu'il y a à Magui organisé afin de ne pas les payer. Mais l'autre version, notamment celle du vice-président de l'intersyndicale, le problème s'est posé au niveau du calcul de l'enveloppe. Le ministère n'a pas voulu travailler avec l'intersyndicale reconnue à la base.
Donc l'intersyndicale veut aussi participer au calcul des bonus pour les trois trimestres.
C'est aussi ça, mais en même temps, le ministre des Finances leur avait dit que l'enveloppe était déjà disponible, mais seulement jusqu'à présent, l'argent n'est pas encore débloqué. Et cette situation crée finalement un flou, et voilà pourquoi il réclame aussi le départ non seulement du cabinet du ministre des Finances, mais aussi et surtout celui du ministre lui-même.
Et est-ce que cette situation peut avoir des conséquences pour le trésor public?
Bien sûr que si, Jocelyne, un manque à gagner pour l'État. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter Abedi Mouami, vice-président de l'intersyndicale des services d'assiette que nous avons joint.
Le trésor public n'aura plus d'argent, parce que même les régies financières qui est la dégérade à notre État, bon, elle va percevoir quoi? C'est nous qui cherchons l'argent, c'est nous qui préparons la nourriture. Mais la DGRAD est là pour apprêter cette nourriture à la table. Sans nous, elle ne peut pas apprêter la nourriture. Mais nous qui préparons, nous sommes exclus. Et nous n'allons plus travailler, nous allons croiser les bras et nous allons nous éterniser au cabinet des finances jusqu'à ce que notre cause aura un gain aussi.
Voilà, c'était donc le vice-président de l'intersyndicale des services d'assiette.
Oui.
Mais face à ces accusations, Berry, quelle est la réaction du ministère?
Bon, nous avons tenté par tous les moyens d'entrer en contact avec le cabinet et même le ministre lui-même, mais c'était sans succès. Dans l'entretemps, sachez que les sit-ins sont prévus le mercredi prochain et les syndicalistes affirment qu'ils vont carrément élire domicile au ministère des Finances jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause.
Affaire à suivre donc. Merci Berry Franklin du Tchaka pour ces détails et à la prochaine.
À la prochaine, Jocelyne.
L'entretien de ce soir.
L'entretien de ce soir, c'est avec Jacqueline Bissimoy, présidente nationale de l'Association des femmes chefs d'entreprise de la RDC. Madame Bissimoy, vous avez organisé dernièrement une cérémonie d'échange des vœux entre membres. Et aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale, la première Assemblée générale de l'année 2010. D'abord, quel bilan faites-vous de vos activités en 2009?
Merci, Jocelyne. Pour l'année 2009, nous avons un bilan qui est satisfaisant dans la mesure où nous avons accompli 80% des actions arrêtées pour 2009. Nous avions été élus présidente nationale de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Congo en mai 2009. Avec le nouveau comité, nous avons commencé d'abord par ouvrir un compte pour l'association parce que l'association n'en avait pas. Et dès qu'on a ouvert le compte, nous étions en train de préparer en même temps la participation de femmes chefs d'entreprise du Congo au Congrès mondial des femmes chefs d'entreprise. C'était le 57e congrès qui s'est tenu à Yaoundé du 23 au 30 octobre 2009. Et après le congrès, nous sommes directement rentrés pour une grande réunion de concertation du comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est un comité en fait qui regroupe les organisations intermédiaires du secteur privé avec certains ministères qui ont en charge les questions économiques. Et donc nous avons eu à présider ce comité. Donc c'est Mélan Lassoff en fait qui a la présidence de ce comité de pilotage qui regroupe aussi bien la FEC, la FENAPEC, la COPEMECO, Lassoff et certains ministères comme le ministère de l'Industrie, Commerce extérieur, Petites et Moyennes Entreprises et j'en passe. Le Centre pour le développement de l'entreprise qui est le CDE, qui est partenaire à la SOF aussi, est en train d'identifier les structures de membres qu'il faut renforcer et où ils doivent apporter une certaine assistance technique.
Quelles sont vos prévisions pour 2010?
Nous devons renforcer le partenariat entre la SOP et le secteur public parce qu'il y a des ministères qui sont des ministères en fait que j'appellerai des cadres de collaboration où il y aura des concertations à faire avec la SOF. Donc nous devons renforcer cela. Nous avons aussi deux formations qui sont prévues parce que nous devons aussi aider les femmes à être à même d'élaborer leurs projets. Alors, au-delà de cela, nous avons aussi comme programme le contact avec les structures de financement pour aider les femmes, en fait, à accéder au crédit et donc de ces faits à renforcer, en fait, et leurs structures respectives.
Oui. Et votre association fait partie de l'international femme, hein, chef d'entreprise. Et il vous arrive aussi de temps en temps de faire comme ça des comparaisons avec les autres.
On ne peut pas ne pas le faire parce que nous nous retrouvons une fois l'an, et c'est pour des échanges. Et nous essayons d'améliorer justement notre façon de gérer, notre vision par rapport aux autres qui sont plus avancés que nous. Nous avons l'exemple de certains pays, je prends les pays où on a été l'année passée, le Cameroun, où vous avez l'association de femmes chefs d'entreprise du Cameroun, GFAC, ils appellent ça groupement de femmes d'affaires du Cameroun. Et nous avons constaté en fait que par rapport à nous, parce qu'il y a, une dizaine d'années quand on se retrouvait en réunion, on échangeait, mais elles qui n'ont pas connu toutes les crises que nous, nous avons connues, elles sont assez avancées. Et je peux vous dire qu'elles sont tellement bien organisées qu'il y a des institutions financières qui leur accordent de financement, évidemment, moyennant présentation de projets. Au moment où je vous parle, nous avons appris qu'elles ont reçu 10 millions d'euros de la part de la Banque africaine de développement pour le financement de tous leurs projets.
Jacqueline Bissimoi, merci d'être venue dans ce studio de Radio Okapi pour répondre aux questions de Écho d'économie. Vous êtes présidente nationale de l'Association des femmes chefs d'entreprise de la RDC et c'est avec vous que nous terminons cette émission Écho d'économie de ce soir. À vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous réécouter sur www.radiookapi.net. Merci et bonne soirée. We'll be right back.